ça a répondu à une demande très forte dans les années 70 des femmes qui se sont mises à travailler. C'est à partir de ce moment-là que les générations de femmes ont eu accès à l'activité salariale en masse.
Les premiers transports par bateau de viande surgelée ou en tout cas en froid négatif, ça date de la fin du 19e siècle.
Pour construire en fait complètement l'offre de produits Picard, déjà nous, on va regarder les tendances de consommation, les tendances dans l'alimentation, puisque les choses évoluent, les gens bougent. Avec le Covid, il y a eu pas mal de mouvements, hein, les gens ont beaucoup plus cuisiné.
Parce qu'il y a eu des premiers incidents, on s'est beaucoup, beaucoup méfié de tout ce qui était surgelé à chaque fois qu'il y avait une crise.
C'est rigolo parce que le titre s'appelle « Moule à la marinière et pommes de terre ». Ça devrait s'appeler « Pommes de terre et moule marinière ».
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Depuis les années 70, nos foyers sont massivement équipés de congélateurs qui nous permettent de stocker des produits surgelés. C'est la domestication du froid, un phénomène qui marque un avant-après dans nos manières de consommer. Essor du travail des femmes, gain de temps, les surgelés sont alors synonymes de modernité, de progrès, d'émancipation, à une époque où faire à manger relevait plus de la tâche domestique que de l'activité potentiellement créative et épanouissante. Mais après des décennies de crise écologique, les choses ont un peu changé et on veut désormais du frais, du local, on veut croquer les paysages à pleines dents et on se rassure vaguement de la présence de visages d'agriculteurs imprimés sur nos paquets de farine achetés en grande surface. C'est ce qu'en sociologie de la consommation, on appelle la naturalité marchande. Et dans ce monde écartelé entre praticité dans la vie quotidienne, créativité en cuisine et désir de naturalité, une enseigne parvient particulièrement à convaincre les consommateurs et consommatrices. Il s'agit de Picard, qui se hisse régulièrement au rang d'enseigne préférée des Français et Françaises. Comment l'enseigne Picard est-elle un cas d'école pour comprendre le fonctionnement de l'industrie agroalimentaire? Quels sont les défis auxquels les entreprises alimentaires font face à l'heure où les scandales sanitaires se multiplient? À quoi ressemblent les techniques marketing et les efforts en innovation pour continuer à attirer en magasin? Cette série parle de surgelés, d'industrie agroalimentaire et de consommation, à travers le cas pratique de Picard particulièrement éclairant pour comprendre ces questions. Et faut-il le préciser, ce travail journalistique a été fait en toute indépendance, nous n'avons donc rien perçu de Picard. C'est parti. Dans mes courses de la semaine, en plus du marché paysan auquel je me rends chaque mercredi et des petits réassorts que je fais dans les épiceries autour de chez moi, les produits que j'achète et que je range ensuite au bac congélo sont généralement des glaces et des légumes surgelés, genre des haricots verts parce que je trouve ça pratique d'en avoir toute l'année. Ce que j'achète aujourd'hui en revanche beaucoup moins, parce que j'aime faire à manger moi-même, ce sont les plats cuisinés, ces plats prêts à l'emploi, déjà cuits et assaisonnés et qu'il n'y a plus qu'à réchauffer. Mais par gain de temps certains soirs ou par commodité certains midis au bureau, de nombreuses personnes y ont régulièrement recours. Pour savoir ce que ces produits renferment et apprendre à lire leurs étiquettes, je suis allée à la rencontre de Raphaël Aumont, chercheur physico-chimiste, que vous avez déjà entendu dans l'épisode 150 de Bouffon.
Je suis chercheur, professeur à l'Université Paris-Saclay, co-directeur avec Thierry Marx du Centre français d'innovation culinaire.
J'ai rejoint Raphaël Aumont en ce matin d'automne sur le campus de Paris-Saclay, plus précisément dans les locaux très lumineux du CFIC, le Centre français d'innovation culinaire. Ce centre de recherche imaginé par le chef Thierry Marx et par Raphaël Aumont est un genre de laboratoire dans lequel on trouve autant d'électroménagers de cuisine que d'instruments de mesure scientifiques. C'est un lieu dans lequel cuisine et science s'entremêlent tous les jours, au gré des recherches qui ont pour but par exemple de vérifier si le fait de passer les légumes verts sous l'eau après leur cuisson permet vraiment de fixer leur couleur. Ou encore, à partir de quelle cuisson et quelle dose de vinaigre de riz, un riz de sushi colle-t-il à la perfection ? Bref, le CFIC est un passionnant lieu de science appliquée à la cuisine. Et juste avant d'y retrouver Raphaël Aumont ce matin, j'ai fait quelques courses chez Picard. J'y ai acheté le fondant au chocolat qui est l'un de leurs best-sellers, un plat préparé de mac and cheese en barquette express, des moules marinières aux pommes de terre également en barquette express, ainsi que des boulettes végétales de leur gamme Tout Bon Tout Veggie. Avec Raphaël, nous avons discuté de l'importance de regarder l'ordre dans lequel apparaissent les ingrédients listés sur le packaging, du rôle de l'eau pour les industriels et des additifs qu'ils se retrouvent alors à ajouter pour contrebalancer des effets, et du fait que parfois les plats cuisinés ne sont pas forcément beaucoup plus rapides à préparer que le même plat en fait maison. Merci beaucoup Raphaël. On est ensemble ici pour aujourd'hui lire quelques étiquettes de produits Picard, de produits préparés. Peut-être commencer par ce fondant au chocolat qui est un des best-sellers de l'enseigne.
Oui, très bien. Donc, fondant au chocolat. Bon, ils affichent clairement Nutri-Score E sur la couverture. Effectivement, quand on regarde les ingrédients, premier ingrédient, sucre, 30%. C'est quand même beaucoup, hein. Un 4 quarts, il y a 25% de sucre, c'est déjà beaucoup. La 30% premier ingrédient, évidemment, ça va être, on va dire, de la pâtisserie de gourmandise. Bon, après, on a des œufs élevés en plein air, du beurre, du chocolat noir, de la farine, un peu d'eau. C'est vraiment les ingrédients de chez soi, avec une recette quand même un peu riche, mais c'est quelque chose qui est pratique, on va dire, là, pour le côté, j'ai quelque chose au congélateur, je le sors, et puis un peu, voilà, 1 minute 30 au micro-ondes, j'ai un cœur coulant. Bon, on pourrait le faire chez soi en 5 minutes aussi, la préparation et 10 minutes de cuisson. C'est après, c'est un compromis. Par contre, on va quand même lire les étiquettes parce que c'est quand même un petit peu riche comme produit. Bon, et puis là, on parle quand même de crise économique. Il faut regarder le prix après au kilo. Tous ces produits-là hein, que vous me présentez, et d'ailleurs que ce soit congelé, enfin surgelé ou pas surgelé, regardez les prix au kilo des préparations soi-disant toutes prêtes qui sont censées vous aider. Ça vous aide d'accord, mais après, est-ce que ça aide le porte-monnaie? Je suis pas sûr. Alors, moule à la marinière et pommes de terre pré-frites. Alors ça, c'est la barquette toute prête, on va dire, pour le midi. Alors moi, c'est pareil, je regarde toujours les ingrédients en premier. Ça, c'est vraiment un réflexe que je peux vous donner. Vous comptez le nombre d'ingrédients et puis vous regardez l'ordre des ingrédients. Je vous rappelle, dans une étiquette, l'ordre des ingrédients, c'est par ordre de quantité décroissante. Par exemple, si je lis pommes de terre pré-frites 42%, c'est le premier ingrédient le plus présent dans le plat. Et ensuite, vous avez des moules. Et vous en avez 22%. Alors c'est rigolo parce que le titre s'appelle « Moule à la marinière et pommes de terre ». Ça devrait s'appeler « Pommes de terre et moule marinière ». Vous voyez, il y a deux fois plus de pommes de terre que de moules presque. Bon, c'est évident, hein, les pommes de terre, ça coûte un peu moins cher que les moules. Ici, j'ai une autre barquette d'ailleurs de préparation, donc mac and cheese au jambon. Pareil, hein, formule express en 6 minutes au micro-ondes. Donc on se dit c'est super, c'est pratique. Premier ingrédient, pâte, 45%. Et deuxième ingrédient, carrément, c'est l'eau. Donc l'eau arrive très très souvent en deuxième ou troisième position. Et ça c'est un peu dommage et même c'est presque scandaleux parce que ça veut dire qu'on achète de l'eau comme ingrédient. Que le produit soit surgelé ou frais d'ailleurs. Hein. Quand vous regardez ce qu'on appelle ces produits ultra transformés, eh bien c'est ça, c'est de mettre de l'eau. Parce que l'eau c'est pas cher pour quelqu'un qui fabrique des produits. Et donc évidemment, en mettant de l'eau c'est moins cher. Et donc on vous paye plein pot le prix du litre en fait. Hein. C'est ça le problème. Et c'est quand même dommageable parce que, alors évidemment après on peut avoir un Nutri-Score de B ou de C. Mais comme on a mis de l'eau, on a mis zéro calorie. Donc ça baisse la calorie, donc en plus on peut afficher sur l'étiquette Nutri-Score super correct. Bah mais c'est normal, c'est de l'eau. Vous voyez, c'est quand même assez presque scandaleux ce type d'opération. Et puis il faut savoir, alors là c'est le physico-chimiste qui parle, mais quand vous mettez de l'eau dans un produit, bah vous perdez la texture, vous perdez les saveurs, puisqu'il n'y a pas de goût. Vous donnez aussi à manger quelque part aux bactéries. Donc ça veut dire qu'il va falloir contrebalancer tout ça. Alors comme l'eau ne donne pas de texture, bah souvent dans ces produits-là, on va rajouter des épaississants, des stabilisants, des gélifiants. Donc on va avoir recours à des additifs pour redonner une texture à l'eau. Ensuite, on parlait bactéries. Bah oui, l'eau va donner à manger à tous ces germes, aux bactéries. Donc il va falloir peut-être user de conservateurs, presque un peu plus. Alors là, l'intérêt des produits quand même surgelés, c'est que on peut mettre généralement beaucoup moins de stabilisants ou de conservateurs par rapport aux autres produits frais. Donc c'est déjà plutôt bien ça. Mais voyez le problème de l'eau. Et en plus après, l'eau, dernier point, c'est qu'il n'y a pas de goût. Donc, il va falloir rajouter des arômes ou alors surcharger en sel. Et ça, c'est aussi dommageable parce que là, il y a 0,5% de sel. Donc, ça va encore, 0,5%. Là, c'est assez correct en sel. Mais très souvent, il y a des taux de sel dans certains produits de l'agroalimentaire qui sont bien trop forts. On doit manger entre 1 et 2 grammes de sel par jour.
Donc, en réalité, les marques auraient la possibilité de mettre moins d'eau, de mettre plus d'ingrédients. Ça ne changerait rien à la surgélation, à la fin?
Non, exactement. C'est-à-dire que l'intérêt, pardon, de la surgélation dans les produits bruts, c'est que toute l'année, vous pouvez avoir des abricots, vous pouvez avoir des morceaux d'oignons déjà prédécoupés. Et là, ça vous mâche le travail pour quelqu'un qui n'a pas trop le temps de cuisiner le soir. Et ça, ça arrive. Et ça, c'est très bien. Donc, les produits bruts, OK. Mais les produits transformés, warning, et les produits ultra transformé, congelé, bah double warning presque, parce que là, c'est vraiment pas des cadeaux d'un point de vue prix ou d'un point de vue sanitaire. Donc, il faut vraiment se méfier avec ça. Donc, moi, je suis d'avis de, dès que vous avez des listes d'ingrédients, vous regardez, vous voyez de l'eau, vous dites, bon, attention, le prix au kilo, c'est quoi? Et puis après, vous comptez le nombre d'ingrédients. Là, vous avez donc pommes de terre, eau, dextrose. Donc, vous voyez, on a mis du sucre. Donc c'est un sucre qui n'est pas très très bon pour la santé, le dextrose, pour le coup, quand il est isolé. Là, si je reprends le mac and cheese, là, vous avez carrément des amidons, vous avez des colorants, vous avez du sel rajouté, des arômes, des antioxydants, de l'acide ascorbique, du lait en poudre, de la chapelure. Donc là, vous êtes vraiment sur ce qu'on appelle un produit ultra transformé avec des produits normalement soit de synthèse, soit des produits qui n'ont rien à faire dans une poêlée classique avec juste normalement un peu de nouilles et puis un peu de jambon, quoi. Voilà.
Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure sur l'ordre des ingrédients, qui du coup, donc tu l'expliquais, le premier ingrédient affiché, c'est celui qu'on va trouver en plus grande quantité dans le produit. Est-ce qu'il y a des conseils que l'on peut avoir pour mieux consommer? Je pense par exemple au chocolat. Quand j'achète une plaquette de chocolat aujourd'hui, je fais attention à plutôt sélectionner dans les ingrédients une plaque qui va afficher d'abord de la pâte de cacao en premier ingrédient, plutôt que du sucre. Est-ce qu'il y a pour d'autres produits phares comme ça des astuces à avoir en tête?
Non, déjà, ouais, le chocolat, c'est très bon. C'est-à-dire qu'on va se dire, le chocolat, c'est quoi normalement? C'est beurre de cacao, un peu de sucre ajouté, pâte de cacao ou fibre de cacao ou fèves de cacao, et c'est tout. C'est-à-dire que si je commence à voir huile de palme, huile végétale, matière grasse hydrogénée, vous voyez les mots à 4-5 syllabes, et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Et dès que vous ne comprenez pas un mot dans une liste, quelque part, on oublie. Dès que vous voyez de l'eau rapidement, on oublie. Et c'est pareil, dès que vous avez, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, mais plus de 5, 6, 10 ingrédients, on oublie. Vous voyez, c'est des petits gestes simples comme ça, mais déjà, ça va permettre d'avoir des produits le plus proche possible, le plus respectueux de ce qu'on pourrait faire chez soi si on avait du temps. Effectivement, chez soi, on n'a pas tous une heure et demie, deux heures à consacrer le soir à faire le repas. Mais n'empêche que des fois, des petites astuces comme ça, d'avoir des produits préparés mais pas ultra transformés, transformés mais pas ultra transformés. Voilà le message. Vous voyez, c'est très clair. Regardez, par exemple, ici, vous avez un sachet.
Alors oui, parlons-en. Donc, j'ai apporté ça parce que c'est un produit que je consomme souvent chez Picard, les pommes de terre à la sarladaise. Oui, qu'est-ce qu'on peut en dire au niveau des ingrédients?
On va décortiquer. Donc, sarladaise. Donc, on se dit, alors, surgelé, OK, Nutri-Score C, ce qui est plutôt bien parce que quand on voit qu'il y a normalement graisse de canard, etc., bon, très bien. 15 minutes de cuission à la poêle quand même. Donc des fois, on se dit, tiens, on va gagner du temps. Vous voyez, la barquette de 5 minutes au micro-ondes, OK. 15 minutes à la poêle à surveiller. Bon, ça veut dire que là, moi, je me pose tout de suite la question. Je me dis, quelle est vraiment la valeur ajoutée de ce produit par rapport à, si moi, je prenais des pommes de terre, je coupe, je mets 15 minutes dans la poêle, ce serait pareil. Donc on va regarder. Peut-être qu'il y a des bonnes surprises. Alors, dans les ingrédients, pommes de terre, bon, 85%, ce qui est bien. Dextrose, ça recommence. Ensuite, graisse de canard, 10%, de l'ail, du persil, du sel, et point. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quasiment tout ce que j'ai chez moi déjà. De l'ail, même de l'ail en poudre, du persil, bon, pour en avoir au congélateur, ou au pire, on achète un bouquet de persil. Des pommes de terre qui sont juste pré-cuites, mais pré-frites, mais presque c'est trop gras ou trop sucré, et un peu de graisse de canard. Donc même, c'est-à-dire que chez vous, finalement, il n'y a pas de valeur ajoutée à acheter ce sachet. Parce que vous pourriez prendre une pomme de terre crue, vous la coupez en tranches assez épaisses, exactement comme il y a dans ce sachet, d'ailleurs, hein, des tranches d'à peu près 2 mm, et vous les démarrez à cuire comme ça dans votre poêle. Huile d'olive ou un peu de graisse de canard, et la graisse de canard, ça se conserve très bien au frais d'ailleurs, hein, vous la gardez comme ça dans votre pot. Une petite cuillère de graisse de canard, on couvre et on laisse cuire doucement. À la fin, au bout des 15 minutes, vous rajoutez de l'ail pour pas qu'il brûle avant, et un peu de persil. Vous voyez, vous allez passer autant de temps chez vous avec ce produit, ou si vous faisiez vous-même la recette, et de façon beaucoup plus saine quelque part, parce que vous n'allez pas avoir ce dextrose, vous n'aurez pas autant de matière grasse, parce que là, c'est quand même un peu chargé en matière grasse, finalement. Hein. Quand on regarde ici, matière grasse, voilà, 14%, c'est quand même beaucoup c'est beaucoup trop. Si vous mettez 2 cuillères à soupe de graisse de canard dans 500 grammes de pommes de terre, on ne sera pas à 14% de matière grasse. Vous imaginez bien, en termes de calories, en termes de santé, après, ce ne sera quand même pas la même histoire.
Alors passons maintenant à ce produit de la gamme Veggie. Picard a développé toute une gamme de produits sans viande. Donc là, on est sur la collection Tout Bon, Tout Veggie. On parle de boulettes végétales, l'anti-corail. Nutri-Score A, c'est ce que je vois sur la boîte.
Alors, 10% de matière grasse, 11% de protéines, donc autant de matière grasse que de protéines, et 17% de glucides. Ça veut dire que, d'un point de vue santé, c'est quand même des produits... Alors, OK Nutri-Score A, mais ça montre aussi les limites du Nutri-Score, moi je trouve, parce que Nutri-Score, c'est juste un tableau Excel que vous remplissez avec « il y a tant de fibres, donc ça vous baisse, il n'y a pas trop de sel, donc ça vous baisse la note, etc. » Mais quand vous regardez par contre l'apport, vous mangez autant de matière grasse que de protéines. Or, normalement, on a quand même besoin d'avoir beaucoup plus de protéines que de matière grasse.
Tu faisais remarquer aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de protéines, c'est ça? Donc, ce n'est pas un produit très nourrissant.
Non, ce n'est pas un produit nourrissant parce que le végétal, pourquoi pas? Et effectivement, et c'est ce qu'on défend toujours, c'est-à-dire qu'il faut baisser le ratio de protéines animales et augmenter le ratio de protéines végétales. Ça, c'est une nécessité, agriculture, écologie, etc. Je ne vais pas refaire tout le discours. Mais dans ces cas-là, il faut trouver des substitutions végétales qui nous donnent les mêmes apports nutritionnels et qui nous maintiennent en bonne santé. Donc les fibres là qui sont rajoutées, elles ont deux rôles. Faire tenir l'eau qu'on a rajoutée exprès et baisser le Nutri-Score. Parce que quand on rajoute des fibres, on sait que spontanément, on a une meilleure note sur le Nutri-Score.
Alors là, dans les différents produits qu'on a passés en revue, on a quand même souvent vu du sucre. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des personnes qui élaborent ces produits? Quel est le raisonnement? Pourquoi on a mis du sucre? Est-ce que c'est une question de sapidité?
Le sucre a un double effet. Il y a un côté d'abord addictif, c'est-à-dire que quand vous mettez un peu de sucre, ça plaît à tout le monde. Le côté sucré, c'est la première saveur que connaît un bébé, le lait maternel est sucré, et donc c'est le côté plaisir. Et ça, évidemment, ça vous jouez sur l'affectif quand vous mangez des produits comme ça, et c'est plaisant. Deuxièmement, le sucre, c'est un agent de charge, donc ça veut dire que c'est comme le sel. Dans des soupes déshydratées, vous mettez du sel. Dans plein de produits, vous mettez du sucre, parce que le sucre, c'est pas cher au kilo. Et donc, ça vous rajoute une masse. Et donc, ça vous fait baisser les coûts. Et troisième chose, quand vous avez des additifs, quand vous avez des fois des fibres qui sont un peu amères, quand vous avez des produits qui sont pas non plus très bien sourcés, c'est-à-dire c'est pas non plus une super pomme de terre, c'est pas le meilleur ail qu'on connaisse parce que c'est de l'ail déshydraté, etc. C'est pas le meilleur chocolat. Et rajouter du sucre, ça vous permet de lisser les saveurs et presque ça passe inaperçu. Comme ça, un mauvais chocolat, un mauvais morceau d'ail, un mauvais lardon parce que c'est pas un très très bon jambon, ça passe inaperçu sur le palais. Donc ça vient masquer les autres saveurs aussi. La seule chose qu'on n'a pas vue finalement, et tant mieux dans tous ces produits qui sont surgelés sur cette table, c'est les conservateurs, les sels nitrités ou les choses comme ça. Parce qu'en gros, et ça c'est bien, le fait d'avoir surgelé, c'est un moyen de conservation qui ne nécessite pas du coup de rajouter encore des antioxydants, des conservateurs, etc. Voilà le point positif de ces produits ultra transformés.
Comment les industriels travaillent pour élaborer ces recettes? Est-ce qu'on a raison de les imaginer comme des petits chimistes à tester, à faire des échantillons et à se dire bon, il faut ajouter tel ou tel épaississant en plus?
Picard n'a pas d'usine en soi, c'est-à-dire qu'ils font faire. Mais après, évidemment, c'est comme là, j'ai dit Picard parce que j'ai que des produits Picard sous les yeux, mais n'importe qui, soit ils fabriquent, soit ils font fabriquer et il y a un cahier des charges. Donc en gros, ils se disent ok, je veux faire des moules marinières, il faut que ça coûte tant la barquette. Voilà. Et donc à partir de là, il y a un sourcing de produits. Donc quelle pomme de terre? Donc est-ce que ça vient des pommes de terre de France ou est-ce que tant pis, on va aller chercher des pommes de terre qu'on refait 5000 km parce qu'elles sont moins chères au kilo. Vous voyez, c'est qu'une histoire de prix. Et après, il y a des stratégies, effectivement, quand vous parlez de petits chimistes, c'est-à-dire qu'on se dit on veut vraiment cibler un Nutri-Score B. Voilà. Ou Nutri-Score A, ça c'est indispensable parce que quelque part, on a déjà préparé le marketing, a déjà fait son boulot, on a déjà la boîte, et il faut que tout soit vert, il faut qu'on soit vegan, il faut qu'on soit, etc. Et donc là, forcément, si on fait les recettes classiques, on ne va pas y arriver. Donc, il va falloir trouver des astuces. Et c'est là que, comme vous dites, les petits chimistes vont rentrer en scène, donc c'est de la R&D, c'est de la formulation, et on se dit, un moyen, c'est de rajouter des fibres, un moyen, c'est de rajouter de l'eau. Ouais, mais est-ce qu'on a encore du goût? Ben, on va tester. Et au pire, ben, on va rajouter un peu de sel, ou on va mettre un peu de sucre, ou on va mettre un peu d'arôme. Puis bon, comme il sera en 15e ingrédient, on ne le verra pas trop, c'est pas grave. Enfin, et, voyez, et là, on commence à rentrer dans un peu des compromis. Donc, soit il y a des gens qui veulent faire quand même les choses bien. Vous regardez ce fondant au chocolat, il est bien d'un point de vue... ingrédients, il n'y a rien à dire, sauf qu'il y a trop de sucre. Mais quelque part, vous savez que vous mangez trop de sucre dans ces cas-là, quand vous mangez ce produit. Mais les gens là qui sont derrière ça, ils se sont dit, bon, nous, on veut peut-être zéro additif. C'est peut-être ça. D'autres produits, là, comme là, se sont dit, bah, vous pouvez mettre de l'eau. Oui, pas de souci, du moment que ça baisse le Nutri-Score. Vous voyez, après, c'est chacun fait un petit peu ce qu'on va céder. La R&D va être obligée de céder un peu de choses. Peut-être que le marketing ou la stratégie va céder un peu de choses. Il y a toujours le prix pour essayer de mettre d'accord un peu tout le monde.
Pour terminer, Raphaël, je voulais qu'on goûte ensemble un plat.
Ah bah très bien,
je sais pas. Mais... on va savoir. Cette fois-ci, peut-être après donc l'analyse des étiquettes, peut-être pour analyser cette fois donc le goût, la texture, les couleurs. Et j'avais envie qu'on goûte un plat que typiquement je n'aurais pas spécialement acheté chez Picard. Donc c'est aussi ça qui m'intéressait cette fois de le goûter avec toi pour l'expérience. Les moules marinières. Ah bah très bien. Que j'ai payé 2,50€. C'est vraiment pas cher. C'est pas un plat que j'aurais acheté parce que, bon, c'est peut-être aussi parce que j'ai grandi à Lille et que j'ai souvent mangé des moules marinières dans des estaminets et autres.
Breton, alors, je vais pas vous dire. Moi, quand je vois moules marinières, effectivement, j'ai des souvenirs presque d'enfance aussi avec ces moules juste cuites, etc. Alors là, qu'elles ont déjà été cuites, je vais les remettre au micro-ondes. J'ai déjà peur de la texture. Mais bon, parce qu'il y a un historique, voilà. Mais on va voir. Très bien, testons.
Allons-y.
Alors, 5 minutes puissance max. C'est parti. Je vais mélanger un peu parce que il y a un peu d'eau qui est venue.
Ah oui. Donc il y a plus de pommes de terre alors là.
Alors, oui, si on sépare pommes de terre et moules, parce qu'il y en a dessous là, faut se méfier. Hein. Effectivement, on voit bien le côté pommes de terre aux moules et pas moules aux pommes de terre. Hein.
Ouais. Oui, parce que là, il doit y avoir combien de moules ? Il y en a moins de 10, hein, j'ai l'impression. Ah, peut-être 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Bon, on a 15 moules. Très bien.
Bon. On est loin de... Ouais, c'est pas hyper gourmand. Il y a plein d'eau, surtout. Là. Enfin, il y a plein de sauces partout. Les pommes de terre, elles sont très collantes. Bon, après, je suis pas chef, hein, c'est-à-dire que mon opinion, ça vaut l'opinion de Raphaël Aumont, hein, c'est pas non plus... Mais c'est très collant et ouais, très humide. Moi, j'aurais bien aimé avoir des pommes de terre un peu croustillantes, quoi.
Oui, ouais.
Mais bon.
Là, forcément, comme elles ont été réchauffées avec les moules et la sauce, déjà.
On dirait des cubes de purée, presque, ouais. Il y a un côté sucré, effectivement. Et on va tester les moules. Mmh. C'est des petits chewing-gums, quoi. Là, ouais. C'est vraiment dur. Bah là, on sent qu'elle est passée, elle est déjà cuite, et là, on sent qu'elle est passée au micro-ondes, pour le coup. Ouais.
Alors, je vais goûter aussi. Donc, je me fais une petite fourchette représentative avec des pommes de terre. Je vais attraper en même temps...
La moule qui reste.
Voilà. Il y a effectivement pas mal de... C'est assez liquide, hein. Il y a cette sauce qui a bien fondu au micro-ondes.
Bah, il y avait de l'eau ajoutée aussi, hein, vous n'oubliez pas. Hein. Mm. Vous vous rappelez, en troisième ingrédient, je crois, il y avait de l'eau.
Ouais.
Et là, on la retrouve, l'eau. Hein.
Mm. Effectivement. Je confirme, la moule est hyper caoutchouteuse. Alors, il y a quand même une sorte de goût marin. Donc,
On a les goûts iodés, ça c'est sûr. Voilà, avec le vin blanc, les oignons, les échalotes. Le côté marinière, on le retrouve en arôme. Mais les textures sont vraiment, vraiment pas là.
En fait, je me demande si dans ces plats, finalement, on n'a pas, comme dans un paysage, on ne retrouve pas tout du plat tel qu'il est initialement, mais comme il y a un petit peu de ce goût de vin blanc, un petit peu de ces herbes, le cerveau imagine le reste et on se remet un peu dans les sensations qu'on peut avoir quand on mange vraiment le plat tel qu'il serait servi dans un bistrot, mais un peu comme une illusion, en fait, une illusion d'optique.
Oui, illusion d'optique, oui. D'imaginaire, etc. C'est bien, et puis ça change de se dire, allez, aujourd'hui, c'est moule marinière, c'est la fête, presque. Le problème, c'est qu'après, on peut-être manger des choses un peu plus simples, mais qui soient plus saines et plus rassasiantes pour l'organisme.
Merci beaucoup, Raphaël.
Ben, avec plaisir. Et revenez quand vous voulez, mais avec des meilleures choses, s'il vous plaît.
On fera peut-être un test de produit à l'occasion de produits plus ragoûtants. Vous l'avez entendu, surgelés ou non, les plats préparés affichent souvent une liste d'ingrédients longue comme le bras. Et disons-le, c'est franchement souvent mauvais signe. En revanche, le fait qu'il soit surgelé permet à minima d'éviter à ces plats l'ajout de conservateurs, puisque le principe même de la surgélation permet cette conservation. Comme on l'a vu dans le premier épisode de cette série, les plats surgelés ont symbolisé dans les années 70, lors de l'essor du travail des femmes, un réel empouvoirment pour celles qui ont pu se réjouir alors de pouvoir réduire leur temps passé en cuisine. Mais la popularité du surgelé a fluctué au cours des années. Si le surgelé a d'abord été très bien accueilli par les consommateurs et consommatrices au cours de l'histoire, notons que sa réputation a été ensuite émaillée au fil du temps, à cause de certains épisodes de scandales sanitaires. L'experte en consommation Pascale Hébel nous en parle.
Il y a eu donc des produits qui étaient surgelés, mais qui étaient à l'origine des plats qui étaient tout prêts, des choses faciles à utiliser. Et puis, il y a eu évidemment des accidents sanitaires liés à la chaîne du froid. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu les premiers scandales sanitaires. Donc, quand on fait une rupture de la chaîne du froid, on peut avoir des bactéries qui se développent. Donc, on va avoir des choses dont on parle encore aujourd'hui, des salmonelloses, des listérioses, des choses qui rendent malades. Et parce qu'il y a eu des premiers incidents, on s'est beaucoup, beaucoup méfié de tout ce qui était surgelé à chaque fois qu'il y avait une crise. Et donc, petit à petit, comme on a eu de plus en plus d'incidents, avec l'utilisation qui s'est développée, on avait de plus en plus de gens qui achetaient des produits surgelés, eh bien, on s'est méfié fortement de ces produits-là. Et ce qui fait que la croissance qui était forte dans les années 80, bah, petit à petit, on a eu plein d'épisodes où ça a même fait des décroissances, et notamment dans le dernier épisode qui a été celui de la crise de la fraude à la viande de cheval, où ça concernait un produit surgelé, eh bien, il y a eu au moins 4-5 ans où le produit a marché, les enseignes comme Picard ont eu des grosses difficultés, parce que on revenait sur cette question, alors que ça avait rien à voir avec la rupture du chaîne du froid, d'un phénomène ancien de peur quand on utilise des produits surgelés de faire la rupture de la chaîne du froid, et finalement d'apprendre chacun à tous les échelons de la filière à ne surtout pas la rompre. C'est que dès qu'on va rompre la chaîne du froid, que ce soit chez soi, eh bien il y a des risques très importants. Que les bactéries qui étaient endormies parce qu'elles sont surgelées se réveillent et finalement se multiplient très fortement, et ça fait des accidents sanitaires beaucoup plus furieux qui créent plus facilement des intoxications qu'avec un produit qui est frais. Et c'est ça qui a fait que ces produits-là ont été un peu arrêtés dans leur croissance et ils sont pas utilisés. On n'a pas que ça comme type de produit. Et qui fait qu'aujourd'hui, on a plutôt envie, et c'est vraiment quelque chose qui, une attente qui est forte, tous d'avoir que des produits frais, des produits bruts, puisque même sur des produits tout prêts, des plats préparés, qui sont en rayon froid et pas forcément en rayon surgelé, on a des doutes qui se sont installés avec le cumul des scandales sanitaires.
À travers cet épisode, nous avons passé en revue les différentes techniques de l'industrie agroalimentaire en matière de rationalité économique. Et vous l'aurez compris, par souci de rentabilité, les plats cuisinés sont souvent alourdis à l'eau et enrichis en additifs utilisés pour modifier la texture et l'apparence du produit, souvent au détriment de sa qualité. Avoir cela en tête permet de savoir ce que l'on met dans nos paniers. Mais l'alimentation reste une affaire personnelle, faite d'arbitrage individuel, de mode de vie, de goût, de préférence et de vision de la praticité. Alors, faut-il le dire, chacun, chacune est évidemment libre de manger des plats préparés plus ou moins régulièrement et en toute connaissance de cause. Dans le prochain épisode, nous donnerons la parole à des consommateurs et consommatrices de produits surgelés, afin de comprendre plus en détail comment cette offre s'est immiscée dans nos manières de manger sur le pouce, de personnaliser nos dîners de la semaine ou encore de faire la popote pour 10. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et un avis sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup à bien référencer notre travail. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Cassandra de Carvalho et de Mathilde Jonin. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Mailleux, directrice des productions Marion Gourdon.